Alors, Christophe Harleston, bonjour. Nous sommes ici pour parler de votre dernière BD, Écho, Monde Miroir, qui vient de paraître aux éditions Soleil. Donc tout d'abord, pour le site ActuSF, est-ce que vous voulez bien nous présenter ce premier tome ?
Alors, Écho est un album un petit peu bizarre pour celui qui l'aborde, parce que c'est de l'heroic fantasy sans être de l'heroic fantasy. D'ailleurs, ça n'a rien d'héroïque, c'est de la fantasy tout court, fantasy IE, puisque on démarre dans un avion, le 747 d'Air France, qui est entre Roissy et l'aéroport JFK à New York, et une jeune fille se retrouve abordée tout à coup par une sorte de gros écureuil habillé comme un horloger bavarois du XVIIe siècle, et que personne d'autre ne voit, et qui très cérémonieusement vient lui demander si elle accepte un héritage. Alors, elle est assez interloquée, et puis elle finit par dire oui. Et à ce moment-là, un éclair touche l'avion, et lorsqu'elle reprend conscience, elle est dans le dragon d'Air France qui fait la ligne entre Roissy et JFK à New York. Et finalement, on va découvrir avec elle et son voisin de siège qu'elle a entraîné avec elle un peu par hasard, on va découvrir un monde miroir d'une autre, avec réellement notre monde, notre niveau, je dirais, 21e siècle, mais c'est pas une uchronie donc, mais où la technologie n'existe pas et qui est devenu un monde de fantasy. On s'est amusé avec Alessandro Barbucci à recréer dans le moindre détail New York, avec y compris le vendeur de hot dog, le taxi qui est toujours jaune avec la petite bande noire de carré noir, le Chrysler Building est là, mais c'est un monde de fantasy parce que le taxi, lui, il est sur le dos d'un saurien. Le vendeur de hot dog, il vaut mieux pas trop savoir de quelle viande il s'agit. Et on retrouve tous les petits détails de la vie new-yorkaise. Donc notre héroïne va se retrouver projetée dans ce monde-là, elle va essayer de comprendre ce qu'elle y fait. Elle va en effet hériter, l'héritage dont on lui a parlé est un vrai héritage, elle va hériter d'une agence artistique que tenait une vieille tante, qu'elle croyait morte depuis longtemps. Et il semblerait qu'en fait ce monde-là soit un monde où on emmène des gens juste avant leur mort. Donc, en même temps, il y a un petit côté, évidemment, Alice au Pays des Merveilles, là-dedans, c'est la jeune fille blonde qui passe de l'autre côté du miroir, qui est accueillie par ce préchaune qui est donc l'espèce de gros écureuil, une version du lapin d'Alice. Et tout ça est avant tout prétexte, bon, à de l'aventure et à de l'humour, l'humour me permettant d'avoir un recul sur notre monde et évidemment de parler de notre monde de façon marrante, décalée par le prisme de la fantaisie. Mais par exemple, le personnage de Yuri qui se retrouve finalement dans la peau de l'émigrant qui a pas un rond et qui débarque à New York et qui est obligé de faire les plus sales boulots, en l'occurrence aller à la chasse dans Central Park parce qu'on est dans un monde de fantaisie, donc ça c'est amusant. Mais voilà, je parle de certaines réalités avec ce prisme qui me permet d'avoir le recul et l'humour qui donne la distance nécessaire.
Alors, quand avez-vous eu exactement l'idée justement de ce monde, de cette création, et combien de temps ça a mis pour se matérialiser ?
Les projets sont toujours longs à générer en bande dessinée. Entre le moment où, avec Alessandro Barbucci, on a dit « tiens, on va lancer un nouveau projet » et le moment où il a dessiné la première page, il s'est écoulé près d'un an. Et puis après, il s'est écoulé 8 mois entre la première et la dernière page. Donc, on a eu le temps de maturer tout ça, de chercher nos personnages, de savoir dans quelle direction on voulait aller. Et je crois que vraiment on est arrivé à un résultat optimal parce qu'on est tous les deux ravis de notre bouquin. Je dis ça, j'ai 130 bouquins derrière moi, j'en dis pas autant des 130 que j'ai fait, mais celui-là j'en suis particulièrement fier et c'est un beau bébé.
Alors justement, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur cette rencontre, vu qu'on parle généralement de projets, justement de produits finis et ainsi de suite. Or souvent, j'allais dire derrière le packaging, derrière le livre-objet, il y a souvent une rencontre, des dialogues, des engueulades, voire même parfois qui permettent de faire avancer le topo. Donc comment se passe la relation entre l'auteur et le dessinateur ?
La relation avec Alessandro Barbucci se passe très très bien parce que on se connaît depuis une quinzaine d'années. Il était même venu, il a passé quelques années au studio que j'anime à Aix-en-Provence, Studio Godferdom. Il est marié avec une coloriste que je connaissais depuis très longtemps, Nalouen Le Breton, qui a d'ailleurs fait les superbes couleurs de l'album. Et c'est quelqu'un d'extrêmement facile, et dans la vie, et dans le travail. Il fait partie, comme tous les plus grands dessinateurs, les plus grands sont jamais des emmerdeurs. Les emmerdeurs sont toujours des gens au talent moyen. Les grands, et vraiment pour avoir travaillé avec Olivier Vatine, bon, Didier Tarquin, Jean-Louis Mourier évidemment, mais eux je les connais depuis qu'ils sont tout petits, donc c'est pas pareil. Mais quand j'ai abordé des gens qui avaient déjà une notoriété importante, comme Vatine, Varanda ou Barbucci, je me suis aperçu qu'avec eux, le travail c'était un bonheur d'une simplicité incroyable. Des fois, je demande une petite retouche, une petite modif. Oui, oui, bien sûr, tout de suite, pas de problème. Alors parfois, avec un jeune dessinateur qui en a son premier album, « Quoi, tu atteins à l'intégrité artistique de mon œuvre ?» Bon, voilà, on voit très vite la différence, quoi. Et Alessandro fait partie de ces auteurs qui ont parfaitement compris et intégré tout ce que je voulais mettre dans mon scénario et qui vont plus loin, qui rajoutent des plus, qui rajoutent des petits détails, qui, chose la plus importante chez un dessinateur de BD, c'est faire jouer les personnages à la perfection. Si on compare avec le cinéma, le boulot du dessinateur, c'est de faire jouer les acteurs. C'est de placer le bon geste, le petit mouvement de la main, le regard en coin, le demi-sourire qui va coller avec le dialogue, qui fait que tout ça va être efficace et naturel. Et lui, là-dessus, il a un talent incroyable. Bon, il ne vient pas de n'importe où non plus, il a fait 1500 pages pour Disney, il a juste créé un petit truc qui s'appelle Witch qui s'est vendu à 50 millions d'exemplaires dans le monde, sur lequel il n'a jamais touché un rond, c'est Disney. Il a fait Skydoll qui est une série d'albums magnifiques. Donc c'est quelqu'un qui a du métier vraiment et là qui a réussi à nous montrer. Il avait envie de faire ce petit challenge, de montrer qu'il pouvait aussi être... efficace dans un genre où on l'attendait pas forcément, et je crois qu'il a fait ses preuves.
Plus techniquement, comment ça se passe? Vous écrivez un scénario, vous lui envoyez des pages ou vous lui faites des petits croquis, ou il est totalement libre finalement d'interpréter vos écrits?
Je donne toujours à tous mes dessinateurs un scénario très détaillé en deux colonnes, case par case, cadrage, description de l'image, qu'est-ce qu'il y a exactement dans la case, avec à côté un petit découpage avec la taille de chaque case, en fait la page en miniature avec les cases numérotées 1, 2, 3, 4, 5. Donc je suis très très directif. Évidemment, il y a le dialogue dans la deuxième colonne. Tout est, je dirais qu'une bonne partie de la mise en scène est en place. La partie mise en scène, c'est une proposition de ma part que le dessinateur est libre de réinterpréter s'il sent une disposition différente des cases, à partir du moment où il ne commence pas à me décaler une case d'une page sur l'autre. Mais j'écris une mécanique très précise et il ne faut pas que le dessinateur commence à dérégler la mécanique, sinon c'est tout le bouquin qui part de travers. Mais justement, j'ai jamais eu de problème avec ces dessinateurs-là. Alors après, je connais la façon de travailler de chacun. Je sais par exemple que sur une scène de pure action, Didier Tarquin va aimer surdécouper un peu, rajouter un peu des cases. Donc au lieu de faire une page à 10-12 cases, comme je le fais en moyenne dans l'Enfeust, je lui écris une page à 6-7 cases, parce que je sais que lui-même va rajouter 2-3 gros plans, mais purement d'action, et qu'il aime surdécouper. C'est son côté cinéma américain qui aime surdécouper l'action, donc j'écris en fonction et je lui laisse un peu de latitude là-dessus. Mais la dernière case de la page sera toujours la même, on retombe et il ne change pas les textes. Et de toute façon, moi je repasse en finale et je fais un dernier lissage des textes après que le dessin ait été fait. Et je peux remodifier des textes, supprimer parfois des bulles, en rajouter d'autres, en fonction de vraiment du dessin pour que tout ça colle pour une meilleure narration possible.
D'accord. Et au niveau du temps de travail, ça vous prend combien de temps à peu près pour un album?
Si je mets bout à bout, c'est 2 mois de travail un album. Mais je travaille parallèlement sur toutes mes séries, sur tous mes albums en même temps. Donc je travaille au même rythme que le dessinateur. J'ai 8-10 dossiers ouverts en même temps. Et le lundi, je vais faire 2 pages de Troll, 3 pages d'Itac. Le mardi, je vais faire 2 pages de L'Enfeust. Le mercredi, je passe de l'une à l'autre en fonction de l'avancée des dessinateurs. Je garde 2-3 pages d'avance sur eux et dès que je vois qu'une séquence est presque terminée, puisqu'ils m'envoient par mail évidemment les pages au fur et à mesure, je commence à écrire la séquence suivante. J'ai besoin d'avoir vu la séquence précédente pour m'en imprégner.
Pour l'impulsion.
Et pour l'impulsion. Et puis des fois, je vais trouver graphiquement des petits détails qui vont me donner une idée pour la suite.
D'accord. Alors on va quitter un peu le côté technique maintenant pour passer justement à l'aspect beaucoup plus créatif. Alors, je dirais la première question va être générale, c'est qu'est-ce qu'Echo ? Comme vous dites vous-même, c'est un monde miroir, une espèce de reflet d'une autre. Alors, c'est vrai qu'au début, j'ai pensé, je dois l'avouer, à une uchronie en songeant à un nanar, que vous n'avez peut-être pas vu, et je vous le souhaite, qui s'intitule Super Mario Bros.
J'ai pas vu.
C'est une tentative d'adaptation du plombier de Nintendo dans les années 90 avec l'acteur dont le nom m'échappe qui jouait le détective, donc il veut la peau de Roger Rabbit, si je dis pas de bêtises. Et le film est assez abominable en soi, ça a été une véritable catastrophe, mais il y avait un détail assez amusant au départ, c'est que la voix off nous indique qu'en fait il existe un double de la planète Terre qui cohabite à côté sans que notre monde n'en ait conscience, mais il s'agirait d'un monde en fait où les dinosaures auraient survécu. Dans celui-là, il n'y a jamais eu de météorite et les espèces ont évolué. Et il va y avoir finalement une espèce de combat dans mes souvenirs pour empêcher la fusion de ces deux planètes au bénéfice des dinosaures qui voudraient nous contrôler comme esclaves. Bon, le film est complètement oublié, mais sur le coup, je me suis dit, est-ce qu'il n'y aurait pas une similitude ? Est-ce que ce ne serait pas finalement une espèce de Terre double qui existerait en parallèle à la nôtre, qui aurait eu à peu près le même cursus, mais effectivement avec un poids beaucoup plus, j'allais dire, fantasy, et là pareil, IE, et des références par rapport à nos contes et légendes traditionnels.
Alors, la nature d'Echo, c'est en effet un double, c'est dans le titre, le monde miroir, hein. C'est un double de notre planète qui coexiste avec notre planète. Je ne vais pas expliquer exactement d'où vient Echo tout de suite parce que je ne veux pas spoiler mes idées, mais moi je le sais. C'est pas une uchronie, donc pas du tout, parce que l'uchronie, c'est notre monde qui, à un moment donné, un événement a fait que, hop, ça a divergé, on est parti dans une direction différente. On n'est pas non plus dans les. Il n'y a pas de point de divergence précis. Il n'y a pas non plus de monde parallèle au sens des univers parallèles tels qu'on les entend en SF. Non, c'est un monde qui existe, on ne sait pas exactement où. Qui est un reflet de notre monde et qui a une raison d'être, mais ça je le dirai pas tout de suite, on le découvrira petit à petit, ça fait partie, même si les albums vont être des one-shot avec des aventures séparées, il y aura malgré tout
un fil,
une trame de fond qui va évoluer lentement petit à petit. Et on a en fait sur ce monde soit des humains qui sont arrivés là comme fourmis parce que les Prechaunes les y ont amenés juste avant leur mort, soit des natifs, c'est-à-dire des gens, des humains qui sont nés sur place. Et puis il y a ces mystérieux Prechaunes sur lesquels je ne veux pas en dire plus.
À ce propos. Même si c'est un monde merveilleux, rempli de beaucoup de côtés qui sont absolument sublimes, j'allais dire, on peut malheureusement pas le montrer dans une interview audio à nos lecteurs, mais c'est vrai que les passages, serait-ce que l'arrivée dans ce New York fantastique, moi j'ai le souvenir de la casse sur le métro new-yorkais qui est absolument sublime.
C'est une très belle casse sur le pont Brooklyn aussi.
Oui, ou même les taxis, ou les scènes de chasse au niveau de Central Park. Vous mettez quand même justement des petites scènes, des personnages pour montrer que tout n'est pas aussi facile, tout n'est pas aussi fantastique qu'on pourrait l'imaginer. Effectivement, il y a le personnage de Yuri qui va se retrouver tel les premiers immigrés, être obligé de prendre tous les sales boulots qui passent pour pouvoir les manger quotidiennement. On tombe sur l'un des personnages dans l'agence dont va s'occuper Fourmille. Bah, il y a la question de la drogue qui est traitée. Il y a la question des meurtres. Ça, je dirais, même si le monde paraît merveilleux, il y a quand même une certaine cruauté.
Mais disons qu'on est dans un monde réaliste, hein. On est dans un monde réaliste avec Echo, c'est-à-dire qu'on montre New York, mais New York, c'est New York. New York, c'est une ville crade. Moi, je connais bien cette ville et je l'adore. Mais montrer New York, c'est montrer la saleté, c'est montrer les gens qui crèvent de faim dans les rues de New York, parfois. C'est montrer, oui, la drogue qui a une emprise énorme sur la ville. Si j'ai eu envie de faire cette version fantasy de notre monde, c'est bien pour pouvoir parler de la réalité, en fait, finalement. Quand on s'éloigne et qu'on prend un peu de distance, on peut mieux parler de la réalité et lui donner un peu plus de poids. Et ce décalage permet une vision un peu plus incisive tout en restant drôle. Donc, Alessandro, qui lui connaissait mal New York, y est allé pour le bouquin, est allé faire des repérages, est allé s'imprégner de l'ambiance surtout, parce qu'il faut ressentir bien l'ambiance d'une ville pour pouvoir la montrer. Il y a des choses qui sont pas forcément de l'ordre du graphique, pas forcément de l'ordre de ce qu'on peut raconter, mais qu'on peut arriver à faire passer, des vibrations qu'on peut faire passer. Et là, je crois qu'il a vraiment bien rendu New York. Sa version fantasy reste quand même New York. On montre trois cases et on a beau voir un dragon dans le ciel, on sait qu'on est à New York.
Alors, pour terminer, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus par rapport aux persos? Est-ce qu'on va les revoir? Et est-ce que vous auriez éventuellement quelques infos sur la prochaine aventure de Fourmille? Puis j'imagine que Yuri sera de retour également.
Alors Yuri et Fourmille sont indissociables parce que les Préchaunes, pour maintenir l'équilibre atomique de ce monde, Yuri étant là par hasard, il ne doit pas s'éloigner de Fourmille. Ce qui, évidemment, pour moi, scénariste, est une facilité formidable, parce que, comme tous les couples de personnages intéressants, on a une jolie fille et un type qui est un peu plus âgé qu'elle, mais où ils se disputent sans cesse, tout en ayant une attirance trouble entre les deux, et ce jeu de chien et chat, d'attirance-répulsion. Mais ils n'ont pas le droit de se séparer, ils n'ont pas le droit de partir chacun de leur côté, ils doivent rester ensemble. Donc ça permet au couple de fonctionner, enfin au couple, aux situations de comédie, de fonctionner, surveillé par ce petit Préchaune, évidemment, qui va veiller à ce que la règle soit respectée. Et la deuxième aventure va les amener à Paris, tout simplement. Dans un Paris avec une tour Eiffel en bois, avec tous les décalages qu'on a vus dans New York et qu'on va voir dans Paris cette fois, ce qui va permettre aussi une belle aventure assez amusante.
D'accord, bah écoutez, merci beaucoup en tout cas pour ce moment, n'ayons pas peur de le dire, de féerie, de rêverie, et en même temps une très très belle aventure, auquel on a envie de voir énormément d'albums suivre.
Merci.